Bonjour, bienvenue dans ce groupe de partage du samedi 24 novembre 2012. Il est un petit peu plus de 16 heures et nous allons partager dans ce groupe autour de la non-dualité, autour également des enseignements que nous laisse un gros livre bleu qui s'appelle « Un cours en miracle ». Et bien d'autres livres qui traitent tous d'un sujet qui est majeur et qui peut se résumer par « Nous sommes un » ou alors « Dieu est ». Voilà, il y a plusieurs façons de décliner ça. Ce sera approfondi et nous pouvons prendre ou pas la parole et puis partager librement autour de choses qui sont présentes ou autour de situations de la vie quotidienne qui pourraient être éclairées par les enseignements non duels, hein, puisque c'est une façon de regarder le monde que de vivre en fonction de la non-dualité, et donc l'expérience peut être différente en fonction du regard, justement. Voilà, avant d'aller plus loin, je vais faire sonner une cloche, et cette cloche, c'est un rappel à notre présence pure, jusqu'à la fin de ce gong. Merci. Alors, ça fait près d'un mois qu'il n'y a pas eu de groupe pour des raisons qui sont toutes objectives. Et je me réjouis de recommencer ces groupes qui, au-delà des personnes qui sont présentes ici, sont partagés parfois par plusieurs centaines de personnes différentes lorsque ces enregistrements sont mis en ligne sur le site êtreplus.fr, hein, dans la catégorie des enregistrements audio. Donc, toutes les réunions sont enregistrées depuis mars 2010, et ça en fait un gros paquet. Et voilà, bienvenue à tous les chers frères et sœurs qui nous suivent à distance, soit parce qu'ils sont loin, soit parce qu'ils ne sont pas forcément disponibles au moment où ça se passe. Nous formons un groupe bien plus grand qu'il n'y paraît grâce à vous, chers frères et sœurs. Voilà, je vais donner quelques directions, je vais introduire ce groupe et ensuite nous pourrons nous sentir libres d'intervenir à notre mesure et de la manière qui nous semble juste. Ça peut être simplement en disant une phrase, en citant un paragraphe d'un livre ou d'un enseignement ou en citant quelque chose de particulier qui nous arrive dans notre vie personnelle, qui peut être soit dirigé par l'ego, et à ce moment-là, nous voyons comment nous pouvons voir ça autrement, soit dirigé par notre partie plus lumineuse, plus pure, qu'on peut appeler le pur esprit, le Saint-Esprit, l'âme, la partie élevée de nous-mêmes. Chacun trouve la définition de cette partie élevée qui lui correspond le mieux. Et puis moi, j'ai tiré le titre de la leçon 97 qui dit « Je suis pur esprit » et cela est pour moi. Je suis pur esprit malgré les croyances, malgré le monde physique, malgré le corps physique. Il y a une partie de moi qui, je sens, s'élève au-delà de ces contingences-là. Peut avoir accès à des choses vraies, peut avoir accès à des vérités, peut avoir accès à beaucoup plus d'amour sans condition. Par moments, ça se révèle dans ma vie ou dans votre vie, vous qui écoutez. Parfois, c'est beaucoup plus masqué, et ça demande à être illuminé par notre propre lumière ou même une expérience, hein, celle d'un proche. Parfois, les relations amoureuse et autres jouent un grand rôle pour titiller ce qui a besoin d'évoluer, ce qui a besoin de trouver sa vérité, ce qui a besoin de se révéler. Hein. Parfois, je sais que moi, j'ai vécu il y a une quinzaine d'années un divorce qui était difficile, mais qui m'a ouvert la porte à un bonheur, à une extase incroyable. Et je remercie vraiment cette situation, mon ex-femme, avec tout ce qu'il y a, tous les différents intervenants, et toutes les épreuves que j'ai vécues à ce moment-là, qui m'ont amené vers une révélation de qui je suis très, très importante, alors que je n'étais pas du tout dans la spiritualité. J'ai vécu quelques mois de félicité, quelque chose d'assez puissant, tout simplement parce que j'ai été bouleversé. Et c'est important, le mot bouleversé, parce que qu'est-ce qui est bouleversé facilement dans notre monde? Ben, ce sont les certitudes. Hein. Ou alors, je peux dire, si ce sont les certitudes qui sont bouleversées, réjouissons-nous, puisque il n'y a pas de choses figées. Hein. Si c'est l'ego qui prétend savoir des choses et qui s'y accroche, que cela soit bouleversé, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, si je m'accroche à des choses qui sembleraient immuables, le bouleversement peut ouvrir la route, la voie à une autre vérité, aussi à ma vraie nature. Pour moi, ça a été le cas. C'est aussi voilà, quelqu'un dit, je trouve cette phrase très parlante, la seule constante dans l'univers, c'est le changement. Donc l'ego, qui est la partie de notre esprit qui est incarné, qui est dans le corps, se croit aussi limité, hein, c'est-à-dire pense que la vie commence avec la naissance et se termine avec la mort du corps. Croit en la limite, croit en la séparation, puisque apparemment dans ce monde, il y a moi qui suis le héros central de la grande pièce de théâtre, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, je suis au centre de ce qui se passe. Hein. C'est étonnant hein, quand même. Je suis jamais chez quelqu'un d'autre, dans la sensation de quelqu'un d'autre, je suis toujours au centre de mon univers. Et il y a moi et les autres. Donc c'est une pièce qu'on pourrait appeler, le générique c'est le titre, c'est Moi et les autres par Avif et Dida, principal acteur. Et puis chacun de nous est principal acteur de sa vie et au centre aussi de sa vie. Et cette pièce-là, c'est la pièce que joue l'ego qui dit moi je suis Avif, hein, par exemple. Et il y a une autre façon de voir les choses que prône la non-dualité et qui dit que malgré ces aspects séparés, malgré ce voile d'oubli de notre vraie nature, sous tout ça, ou en parallèle à tout ça, ou avec un autre regard sur tout ça, nous sommes un. Hein, tous les humains et puis aussi toutes les créatures vivantes de l'univers, et aussi inertes, sont dans une seule et même existence, conscience. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Puis j'ai cité quelques questions hein, dans la page de présentation de ce groupe. Je vais vous les dire, et peut-être pour vous, ce sont des questions qui peuvent donner lieu à un partage. Hein. Si c'est le cas, reprenez-les si elles vous parlent. Donc la première question, c'est comment mieux percevoir notre véritable nature, avec un grand N, hein? Comment pacifier notre vie avec le vrai pardon, le pardon véritable tel que l'enseigne la non-dualité ou un cours en miracle, le sens du mot Dieu dans la non-dualité, hein? Avec toute la différence de ce qu'il peut recelé dans ce qu'enseignent les religions établies, dogmatiques, hein, qui se basent sur certains dogmes. Comment pouvoir être heureux, choisir d'être heureux plutôt que d'avoir raison dans cette évolution que nous vivons sur Terre. Comment identifier notre ego comme la croyance d'être séparé. Comment vérifier le pouvoir divin de nos intentions. comment ce que je vois du monde peut n'être qu'un reflet de ce que je pense. Réalité et illusion, comment ce sont deux niveaux de perception radicalement différents. Comment être dans ce monde de dualité sans être du monde, sans en être. À quoi peut servir le scénario de nos vies sur Terre? Comment la vraie guérison peut être de l'esprit et non du corps, hein, par opposition? Quelle est la nature de notre voile de séparation qui fait que nous nous sentons séparés des autres? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment apprivoiser l'ego et le remettre à notre service s'il joue les tyrans et veut s'approprier le pouvoir sur notre existence? Et puis comment le monde subtil est à nos côtés en permanence pour nous fournir de l'aide, hein, et dans quelles conditions il nous la fournit? Voilà quelques questions, bien sûr, il y en a bien d'autres, ce ne sont que des points de départ, des directions, hein, et sentons-nous libres de développer ces directions ou d'autres. N'importe quelle question est reliée d'une manière ou d'une autre à la non-dualité, parce que tout est un, hein, et cette question forcément a un rapport avec tout est un, d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a pas de question non pertinente. Donc sentez-vous libre de poser ces questions, si elles sont là. Et puis, d'ores et déjà, je vais lâcher le contrôle sur ce qui va être dit ou être fait, puisque ça ne m'appartient pas. Le déroulement de cet après-midi est sous la direction de notre esprit, hein, notre partie élevée, notre partie pure, à qui je transmets la direction, hein, de cet après-midi. Je le fais symboliquement à l'aide de 5 phrases qui apparaissent en page 30 d'un cours en miracle et qui sont pour moi très puissantes, hein, et qui m'invitent à laisser faire les choses plutôt qu'à essayer de diriger les choses. Et ces phrases, je vais essayer de m'en rappeler parfaitement, bien sûr je suis guidé, elles disent ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, fort de la puissance de ces phrases, je peux me laisser inspirer ou pas par cet esprit de façon à témoigner, partager ou répondre à certaines questions sans que ce soit le désir de contrôler l'après-midi ou de lui donner une direction en particulier qui le fasse. Et je suis parfaitement confiant que si je laisse ça se produire, cela sera le cas. Voilà, et puis je continuerai en disant deux mots qui ont été cités par Jésus il y a 2000 ans, qui ont un pouvoir assez grand également pour moi. Et Jésus disait simplement, répétait assez souvent, Dieu est. Et cette phrase est une des prémices de ces groupes sur lesquels nous nous basons. D'abord, le mot Dieu n'est pas synonyme de personnage extérieur à nous-mêmes, mais plutôt de tout ce qui existe, de la totalité de l'existence qui nous inclut. Et on peut le remplacer librement par la source, le créateur, l'univers, la vie, la réalité, la vérité, la lumière, tout, l'amour, tout ce que vous voulez, qui pour vous englobe tout. Englobe tout. C'est ça la non-dualité. Il n'y a pas Dieu et autre chose, il n'y a que Dieu. Hein, dans la non-dualité, il n'y a que Dieu. Et nous sommes assurément part de Dieu. Donc quand nous disons Dieu est, nous disons aussi Dieu est tout ce qui est. Et comme Dieu est tout ce qui est, Dieu ne peut pas s'opposer à quelque chose, puisque comme étant tout, il s'opposerait à lui-même, ce qui est inconcevable. Hein? Et si Dieu ne peut pas s'opposer à quoi que ce soit, Dieu accueille tout, ne juge rien. C'est aussi la réponse qui est donnée à beaucoup de questions récurrentes, pourquoi Dieu autorise la cruauté, les guerres, etc. Voilà, Dieu accueille tout en tant qu'expérience. Si nous souhaitons faire l'expérience, Dieu ne connaît qu'un seul mot, c'est d'accord. Puisque cette expérience fait partie de la réalité de ce que Dieu autorise, hein, puisque Dieu autorise tout ce qui se passe, même des expériences qui sont des rêves ou des cauchemars ou des choses illusoires. Elles sont dans notre esprit. Dieu dit oui aussi à ça, au fait que nous souhaitons imaginer des choses. Voilà, donc Dieu est d'accord avec tout ce que nous faisons et Dieu ne nous juge pas que nous soyons apparemment en train de faire des choses que nous qualifions de bonnes ou apparemment en train de faire des choses que nous qualifions de mauvaises ou de inadaptées ou de... voilà. Et cette qualité de Dieu, comme nous sommes à l'intérieur, nous sommes partie d'eux, c'est comme si la seule réalité possible dans l'existence avait trouvé une manière de croire qu'elle est fragmentée en différentes parcelles, mais qui porte toute cette étincelle divine, hein, qui porte toute cette conscience divine, et qui en fait sont reliées et qui sont une. Hein, ces parcelles sont apparemment séparées. Et nous vivons ça jusqu'à ce que nous puissions percevoir à nouveau, par un pardon véritable, on pourra en reparler, que en fait... nous ne sommes pas réellement séparés. Hein, nous pensons simplement être séparés. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Nous pouvons continuer sur une des choses que j'ai dites, ou nous pouvons librement dire quelque chose qui nous vient à l'esprit, ou nous laisser guider à parler, ou même à rester en silence, puisque dans ce silence, nous sommes aussi ensemble, hein, nous sommes aussi un, nous sommes aussi tout le temps avec nos frères et sœurs qui, en ce moment même, sont à l'écoute, hein, de ce qui se dit, de ce qui se partage dans ce groupe. J'ai parlé.
Bien entendu, chacun d'entre nous réagit d'une manière totalement unique à tous les mots qui peuvent être entendus. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes 7 milliards et nous vivons une expérience complètement individuelle et en même temps nous sommes ensemble. Et on peut dire que le point de départ... C'est le fait d'être en relation les uns avec les autres et en même temps d'être seul avec nous-mêmes sur cette planète avec un corps physique, homme ou femme, qui apparemment a un certain âge et puis qui se meut dans un certain conditionnement. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On dit souvent que à partir d'un certain âge, 40, 50, 60, 70 ans, il y a une prise de conscience justement de cette mort du corps, de cette fin, alors que dans les années, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, on s'étourdit avec des attentes, en essayant de combler les manques, de trouver des satisfactions. On attend Noël, on attend d'être amoureux, on veut garder des relations, garder de l'argent, acquérir des possessions. Puis on s'aperçoit que finalement c'est plus complexe que ça, tout ça, et qu'on voit par exemple au Japon des jeunes qui se réunissent sur Internet et qui ensemble montent dans des camionnettes et qui vont en forêt se suicider ensemble. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de vision intérieure. Et on est tous là face à la vie que nous menons, face à ce corps physique. Tous les matins, nous réveillons, nous pouvons nous regarder dans la glace, dans la salle de bain, et puis dire, tiens, c'est encore moi qui suis là. C'est toujours moi, c'est pas la personne qui dort à mes côtés ou que je rencontre à la caisse du supermarché, ou que c'est pas un maître, c'est pas mes parents, ou mes enfants, ou des amis, c'est moi. Je suis toujours là, face à moi-même. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors la question, c'est est-ce que je suis heureux? Parce qu'on peut dire que je cherche à me développer, ceci, cela, mais pourquoi? Je m'aperçois que si je regarde bien, mais j'ai pas envie de regarder, et c'est le principe du monde de l'ego, c'est de ne pas vouloir regarder, parce que je me sens terrifié parce que je pense que je vais voir si je me regarde à l'intérieur. C'est pour ça que dans le cours en miracle, Jésus nous dit « Donne-moi la main et viens avec moi, on va regarder à l'intérieur. » En fait, tu es terrifié, tu veux pas regarder parce que tu as peur de ce que tu vas voir. Mais viens avec moi et derrière ces gros nuages sombres qui te font peur, viens avec moi, on va traverser ça ensemble. Et tu vas découvrir qui tu es vraiment, la lumière que tu es, que nous sommes tous. D'ailleurs, ici, je fais une parenthèse parce que si on est là encore en train de parler, le monde n'a pas sauté, la planète n'a pas sauté, elle aurait dû sauter déjà depuis dans les années 60, 70, au moment de la guerre froide, mais elle a été protégée. Je parle des attaques atomiques russes et américaines. C'était à l'époque absolument terrifiant de voir que les fusées étaient prêtes à être lancées vers les principales villes américaines et soviétiques, et que les ordres étaient qu'à la moindre attaque, dans les 10-15 minutes, le bouton rouge était appuyé. Ça aurait dû se produire, ça s'est pas fait. Et ça c'est un petit exemple simplement, mais de ce qui se passe aussi à l'échelon universel. Parce que dans l'univers, il y a des luttes, des guerres extrêmement puissantes. Et pourtant, ça continue à fonctionner. Alors on dit que l'univers a 14 milliards d'années, l'univers visible. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Et nos scientifiques cherchent le Big Bang, n'arrêtent pas de le trouver, et finalement, il se dissout. On arrive avec quelques nanosecondes avant le Big Bang ou après le Big Bang. On n'a jamais de Big Bang. Effectivement, il n'y a jamais de Big Bang, il n'y en a jamais eu. C'est une illusion, c'est un voyage en conscience. Parce que nous sommes ici à parler, vous êtes devant votre ordinateur à écouter cet enregistrement. Mais d'où ça vient que vous êtes là, que vous dites « je suis » Et ça, c'est Dieu. Il n'y a que ça qui existe, il n'y a que la vie, le vivant. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Alors on peut se suicider. Ok, on se suicide. Et alors? On s'aperçoit que quand on se suicide, on revient très vite. Mais qu'est-ce qui fait revenir? Qui nous sommes? Notre volonté d'expérimenter, de retrouver qui nous sommes. Parce que quand on se suicide ou quand on quitte cette vie, c'est-à-dire quand le corps s'arrête, d'accord, le corps s'arrête, l'expérience était en général extrêmement plaisante, très très agréable, magnifique, incroyable, mais l'ego reste, c'est-à-dire la vision profonde intérieure reste. L'âme a décidé de faire des expériences et elle a décidé au niveau de qui elle est, c'est-à-dire au niveau du Christ que dans le cours en miracle appelle le Christ, c'est-à-dire l'esprit que nous sommes, l'étincelle divine que nous sommes, qui est totalement positive, qui n'a aucun côté négatif, aucune zone d'ombre, qui n'est que perfection, que joie, que félicité. C'est la réalité de Dieu, c'est la réalité de qui nous sommes. C'est pas ce que nous semblons être. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ceux qui sont sur cette planète, la petite planète bleue, la petite planète Terre, qui est minuscule, même au niveau de cette galaxie, où il y a 240 milliards de systèmes solaires dans la galaxie, dans simplement cette galaxie, alors que dans cet univers visible, ce qu'on appelle l'univers visible, de 14 milliards d'années-lumière, il y a 350 milliards de galaxies. Donc c'est absolument inconcevable pour notre mental humain. Et il est temps maintenant, avec justement l'information que nous recevons, les messages, les communications, il est temps d'arrêter nos visions limitées, les bêtises qui consistent à croire qu'on est seul dans l'univers et qu'on a un petit pouvoir personnel. Nous sommes devant quelque chose qui est absolument fascinant et en même temps nous sommes devant notre petit microcosme quotidien et c'est là que ça commence. Comme je disais tout à l'heure, je me regarde dans mon miroir le matin et je vois toujours celui qui est là ou celle qui est là, c'est toujours le même. Et puis la journée est là, qu'est-ce que j'en fais? Quand je regarde simplement, je m'aperçois que c'est toujours moi qui suis là et donc je peux choisir. Mais qu'est-ce que je choisis? Parce que je choisis toujours et tous mes frères et sœurs choisissent toujours. Et comme dit le courant miracle, on ne choisit jamais seul. Il veut dire par là qu'on choisit toujours avec un état d'esprit. Et il y en a deux, c'est l'un ou l'autre. Soit c'est séparé, soit c'est un. C'est-à-dire, soit Dieu est tout ce qui est, soit je suis séparé vraiment, ma réalité est séparée de tout ce qui m'entoure, qui n'est pas moi. Si c'était vrai que je sois séparé de tout ce qui n'est pas moi, je ne serais pas là à parler. Le fait que nous soyons là, que ça dure, que même s'il y a des morts physiques, c'est-à-dire qu'on lâche le corps, la vie est la vie, elle est là. Et même si la planète Terre saute, la vie continue. Il y a eu d'ailleurs des planètes qui ont sauté dans l'univers, qui ont disparu. La Terre a failli effectivement connaître le même sort au temps de l'Atlantide, où la technologie était très développée et il y avait une différence entre l'état de conscience et la technologie, et il y avait des manques d'amour, ce qui fait que dans le plan divin, il y a eu catastrophe physique avec engloutissement dans les eaux de cette cité. Il y avait eu avant, 90 000, 100 000 ans avant, la Lémurie, et puis des êtres qui sont enterrés, qui sont à l'intérieur de la Terre actuellement, et que nous sommes en train de redécouvrir. Nous découvrons également que il y a des pyramides un peu partout dans le monde qu'on peut dater de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 ans, ce qui d'ailleurs est même avant l'Atlantide, et c'est visible maintenant, bien qu'il y ait une très forte opposition par nos gouvernements, par nos médias, une très forte opposition de regarder cela en face. Parce qu'il y a, toujours des peurs, des peurs, des peurs, et que ceux qui nous dirigent ne représentent pas l'âme profonde de ce qui constitue la société. C'est en train de changer. C'est pour ça que Internet, que nos réunions, que toute l'information qu'on a, tous les partages qu'on fait de plus en plus, créent un état de conscience. Il y a un égrégore qui est créateur, car nous sommes créateurs. et les dirigeants que nous avions jusqu'à présent étaient le reflet des croyances de la masse. À partir du moment où la masse change, et la masse c'est vous, c'est moi, c'est une somme d'individus, attention, c'est une somme d'individus, donc l'inconscient collectif, c'est une somme d'inconscient individuel, de conscient individuel, parce que nous sommes qui nous sommes le vivant, nous sommes ce que la cour appelle le Christ, le Fils de Dieu, comme disait Jésus il y a 2000 ans, et ça c'est indélébile, c'est inviolable, c'est qui nous sommes. Donc il y a apparemment des individus qui sont en fait des êtres de lumière, qui sont pleinement divins, totalement un, qui sont esprit, comme disait tout à l'heure Avi, je suis esprit, et il n'y a que l'esprit qui soit, les corps, les extraterrestres, toutes ces expériences, ce sont simplement des expériences qui sont faites par des esprits, par l'esprit que nous sommes. C'est comme, on pourrait dire, de multiples facettes à l'infini de Dieu. Chaque être est une petite facette de Dieu. Donc chaque être est Dieu. C'est des manières de parler, bien sûr, parce que je suis en train de parler dans la dualité, c'est-à-dire dans la séparation. Ces expériences sur la Terre et dans l'univers sont des expériences duelles, c'est-à-dire des expériences où on s'amuse comme avec une puissance incroyable, comme dans un bac à sable, comme un terrain de jeu, où on s'est amusé à imaginer la séparation. Et cela, comme dit le courant miracle, cela crée l'univers entier que nous pouvons voir, ou du moins pressentir, voir avec nos instruments scientifiques, voir avec nos mathématiciens, nos astrologues, nos physiciens, voir aussi avec nos yeux, nous-mêmes, et c'est d'ailleurs vertigineux. Mais comme dit Jésus, ou le courant miracle, cet univers extraordinaire, incroyable, gigantesque, n'est absolument rien en comparaison de qui nous sommes. Donc nous ne sommes pas sur un petit travail. Il est évident que ce que nous partageons dans la non-dualité, ce qu'ont toujours partagé les maîtres, que ce soit les soufis, que ce soit le Tao Te Ching, la Bhagavad Gita, Jésus il y a 2000 ans. C'est un message extrêmement fort, qui n'a rien à voir avec l'apparence que nous vivons. Ça a tellement rien à voir que, jusqu'à présent, les messages ont été très peu compris. Même ceux qui ont suivi Jésus il y a 2000 ans, les apôtres, etc., comme c'est dit dans un cours en miracle, textuellement, dans un des chapitres, mes apôtres étaient comme vous, ils n'avaient pas tout compris. Et encore, c'est dit gentiment. Parce que quand on voit, et que c'est cité dans les textes soi-disant sacrés, que les apôtres discutent entre eux en disant quel est le plus grand dans le royaume, est-ce que c'est toi Philippe, est-ce que c'est toi Pierre, ou est-ce que c'est Jean? Et puis Jésus a un disciple préféré, ça serait Jean, et puis comment ça se fait qu'il embrasse Marie-Madeleine sur la bouche en public, etc. Ça c'est dit dans l'évangile de Thomas. Et on voit toutes ces informations qui nous viennent, de textes qui sont des copies de copies, qui sont des témoignages de gens qui n'étaient même pas là, où dans ces textes il y a des choses absolument merveilleuses, on sent des choses qui sont profondément inspirées par l'amour, par la réalité de qui nous sommes. Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont remises par l'ego, par la peur, par les sens de jugement, par des besoins de se sécuriser, par des besoins de se dire qu'on a la vérité, tellement on a peur d'être puni, tellement on se sent coupable. Et c'est ça la dualité. La dualité implique la culpabilité. Et le cours en miracle insiste énormément sur cette profonde culpabilité. Parce qu'en fait, dans ce jeu de l'incarnation, dans ce jeu de « et si nous n'étions pas qui nous sommes ?», ça n'est qu'un jeu, ça n'est qu'une pensée. Mais nous sommes tellement puissants que cette pensée, elle engendre cette expérience, elle engendre cet univers, avec ses ramifications à l'infini, incroyables. Et donc cette pensée est fondamentale. Et personne ne s'oppose à cette pensée, parce que personne ne s'oppose à rien, puisqu'il n'y a que Dieu. Donc Dieu lui-même ne s'oppose pas à l'infinité de son esprit, de l'esprit qu'il est. Et quand je dis « il », j'emploie un mot « duel ». Parce qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que la vie, il n'y a que le vivant, il n'y a que l'esprit un. Sans second ni troisième, il n'y a qu'une pensée, c'est la pensée unique avec un P majuscule, la pensée. Et ça, c'est qui nous sommes. Donc, effectivement, nous sommes esprit. Dans ce jeu de dualité, dans ce jeu qui est incroyablement bien fait, ce jeu a deux principaux outils pour se jouer. C'est l'identification au corps physique et c'est l'illusion d'un temps linéaire. Le corps physique, effectivement, magnifique. Je suis, voilà, un petit corps, soit masculin, soit féminin, et tout le reste, c'est pas moi. Et comme dit le courant en miracle, les yeux du corps sont faits pour ne pas voir. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les yeux du corps sont faits pour que je perçoive à l'extérieur de moi ce qui semble être extérieur, tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui semble ne pas être moi. C'est ça l'illusion. Et c'est remarquablement fait. C'est incroyable. Magnifique. Bravo. Et puis, le temps linéaire. Et le temps linéaire, c'est très subtil parce que on est habitué à ce temps linéaire, on croit au passé et au futur. On peut même voir les traces du temps sur la Terre, par exemple le ravinement et le travail de l'eau sur la surface, comment les rivières, comment les mers ont dessiné, comment les plaques tectoniques se sont soulevées, comment ça a créé des montagnes, etc. Et on peut dater avec 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard d'années. Et on dit, ben voilà, vous voyez, le temps existe. Mais c'est tout imaginé. Parce qu'on ne peut jamais vivre le passé et le futur. On est toujours dans l'instant présent. Bien sûr, on peut dire que on peut arriver à transcender le temps et que des extraterrestres ou des êtres d'autres dimensions ont des moyens d'aller regarder dans les annales akashiques, donc d'aller dans le passé, et regarder aussi dans le futur. Mais en fait, il n'y a ni passé ni futur. Même ça, ça se fait dans le présent. Même ça vient de l'esprit infini que nous sommes. Donc tout est possible. Tout est possible maintenant, dans l'éternel présent. Voilà ce dont nous parlons, voilà ce dont cette non-dualité. Voilà. Alors donc, vous voyez que je suis en train de parler de deux choses à la fois qui semblent presque incompatibles, c'est-à-dire une dimension cosmique gigantesque, incroyable, universel, quasiment infini, et en même temps, une petite expérience terrestre, allez, un tel, une telle, Brigitte, Bertrand, Jean-Baptiste, Christine, etc., qui c'est là, telle identité, telle vie, le petit microcosme d'un individu, que vous êtes, vous qui écoutez ces mots. Donc, vous voyez le paradoxe. Et c'est là la beauté de notre expérience. Dans cette expérience terrestre, incroyablement minuscule, dérisoire en apparence, il y a une chose, la seule, qui peut nous permettre d'être heureux, parce que sinon c'est terrifiant. Et c'est quoi cette chose-là? Ben, cette chose-là, c'est qui je suis. Et qui je suis, c'est ben, je suis amour. Parce que la vie est amour. L'amour, c'est l'accueil, c'est je suis, c'est cela est, c'est tout. Et donc j'accueille tout. Et je commence à comprendre pourquoi je suis invité, si j'ai envie d'être heureux, si j'ai envie d'être simplement d'être heureux, c'est tout, d'être en paix, de retrouver cette paix que je suis invité à arrêter les jugements. Parce que je suis créateur, parce que je suis esprit. Et l'esprit, puisqu'il n'y a que lui, rien ne s'oppose à lui. Donc ça veut dire en clair que l'esprit vit ses croyances. Toute pensée est réelle pour le penseur. Je répète ça. Toute pensée est réelle pour le penseur. Et là, il est temps que je prenne vraiment la pleine responsabilité de mon expérience. Parce que j'ai oublié que je crée tout le temps. Et mes frères et sœurs autour de moi aussi. On est 7 milliards ici à nous brûler les doigts, à jouer les apprentis sorciers sans le savoir. Nous sommes sans cesse en train de créer, et comme dit le courant miracle, eh bien, nous ne cessons pour créer le ciel, pour créer ce bonheur auquel nous aspirons tous, eh bien, nous ne cessons d'utiliser des moyens qui font l'enfer. Et qu'est-ce que c'est que ces moyens qui font l'enfer? C'est l'ego, c'est la vision de séparation, ce sont les jugements. Car quand je dis « attention, il y a danger », je crée le danger. Quand je dis « attention, il y a manque », je crée le manque. « Attention, il y a maladie », je crée la maladie. Bien sûr, en réalité, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de manque, il n'y a rien. Il n'y a que l'absolu, il n'y a que la plénitude, il n'y a que la lumière. Seulement, j'ai oublié que je me suis amusé dans le bac à sable, là. Et qu'on est venu ici jouer cette pièce de théâtre ensemble, cette pièce dans la séparation apparente. Et on s'est bien brûlé, on s'est bien battu, on s'est bien torturé les uns les autres, jalousé, trompé, volé, etc. Et finalement, ça n'a pas touché qui nous sommes. C'est ça le grand message de la non-dualité. Comme dit le Coran Miracle, tout ce qui est l'ego, c'est la croyance que quelque chose peut arriver au Fils de Dieu sans sa volonté. Tout ce qui est l'ego, c'est la croyance que quelque chose peut arriver au Fils de Dieu sans sa volonté. Et le Fils de Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est tous les extraterrestres, les intraterrestres, qui vous voulez, c'est tout être. Et il est liberté, cet être. Il est plénitude. Il est puissance divine infinie. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a que des êtres de lumière. Il n'y a que des éveillés. Et puis il y a apparemment l'illusion d'être séparé. C'est le jeu, c'est un jeu illusoire. Mais c'est impossible. Et c'est pour ça que les êtres d'autres dimensions qui s'occupent d'aider la Terre à se réveiller, enfin les habitants de la Terre et la Terre elle-même à ascensionner, c'est pour ça qu'ils sont émerveillés de notre jeu. Une raison, c'est que le jeu est très puissant. L'illusion est très très forte. Jamais dans cette galaxie, le libre arbitre n'avait été donné autant. Et au milieu de ça, après des milliers et des milliers d'années, et beaucoup plus, voilà que nous nous réveillons ensemble dans l'amour. Vraiment. Et on se réveille comment ? En faisant l'expérience. Au début, c'est intellectuel, on en parle ensemble, ça nous parle à notre cœur, ça nous dit quelque chose. Mais progressivement, on est appelé à mettre en pratique ce dont nous parlons. Non, notre vrai travail, c'est pas de dire des mots, c'est pas d'écrire des livres, c'est pas de lire un cours en miracle ou autre chose, ou même de venir ici au groupe d'avis. Notre vrai travail consiste, nuit et jour, 24 heures sur 24, à choisir consciemment l'amour et non plus la peur, l'unité de toutes choses et non plus la séparation. C'est ça dont nous parlons. Et encore, si on en parle, comme souvent ça nous arrive, on en parle et finalement, on est encore piégé là-dedans. Et on oublie de le pratiquer. Et le pratiquer, c'est ouvrir son cœur. C'est dire, j'arrête de juger l'autre. Ça me paraît impensable de voir des avions qui bombardent la bande de Gaza, d'avoir des enfants qui meurent, enfin de corps d'enfants qui meurent, etc. J'arrête de juger ça. Car ça, c'est un produit d'état de conscience général. Et quand je critique ceux qui envoient des bombes, ceux qui fabriquent des armes, eh bien, je donne une réalité aux fabricants de bombes, à ceux qui les envoient et à ceux qui fabriquent des armes. Je donne une réalité aux bourreaux et à la victime. Je continue à donner une réalité à ce jeu de bourreaux-victime qui se perpétue depuis des millions d'années sur cette planète. Bon, millions d'années, ça, c'est pas important. Les âges, parce que nous touchons là à des dimensions que nous connaissons pas, pratiquement. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant, là. Nous sommes en 2012, on va bientôt arriver en 2013, nous sommes à l'échéance du 21 décembre 2012, nous sentons que là, il y a un basculement, non pas ce jour-là, hein, c'est déjà commencé depuis un certain temps, ça va continuer après ça en 2013-2014, mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est quoi ? C'est quelque chose de nouveau dans le vécu de l'amour, dans le vécu de l'ouverture du cœur, où partout nous voyons des frères et des sœurs qui s'ouvrent, qui se regardent, qui posent des armes, qui arrêtent de juger. Et qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons uniquement agir à notre échelon individuel. On n'agit pas sur les autres, on agit sur nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est qu'agir sur nous-mêmes ? C'est décider dans l'instant présent, à tout instant, comme je disais tout à l'heure, 24 heures sur 24, décider de choisir l'amour et non plus la peur, la séparation. Je suis créateur, nous sommes créateurs. Alors on va dire, ben oui, mais c'est bien gentil, mais il y a 7 milliards d'individus, et toi, tu es là et tu choisis, mais et les autres? Eh bien justement, c'est ça le miracle incroyable, c'est que comme les autres sont amour, sont la lumière, donc quand je choisis la lumière, quand je choisis qui nous sommes, je choisis pour tout le monde. C'est ce que Jésus nous dit en disant, écoutez, je suis venu il y a 2000 ans, j'étais venu avant, c'était ma dernière incarnation, il y a 2000 ans, et j'ai vraiment vaincu le monde, c'est même dans les évangiles ça. Et le cours en miracle nous dit, combien il en faut pour sauver le monde? La réponse est, un seul suffit. Un seul suffit. Jésus nous dit, moi, ce travail-là, je l'ai fait. Il a été fait à travers moi, en tant que Christ. Ça s'est passé comme ça. Mais je ne suis pas plus que vous. C'était très puissant. Et voilà qu'on a mis 2000 ans après à se torturer, à se faire des guerres, des croisades, à aller tuer l'infidèle, etc. Et voilà que, en ce début du troisième millénaire, après l'an 2000, nous sommes en train de vraiment nous réveiller. Ça a commencé déjà au XXe siècle, d'une manière plus consciente, dans les années 70, 80, et puis même avant, évidemment. Mais nous sommes en train de nous réveiller à qui nous sommes. Vraiment. Et c'est pour ça que cette planète, l'univers entier, cette galaxie et même l'univers est passionné par cette expérience terrestre. Car tous nos frères et sœurs, je parle des 7 milliards que nous sommes, eh bien, tous nos frères et sœurs sont la lumière du monde, sont une facette de Dieu. Et donc, il y a un jeu qui est joué, qui est déjà terminé, qui ne pouvait pas échouer, car il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. C'est ça la non-dualité. Et là, nous touchons au pardon, au vrai pardon, qui se fait que sur moi-même. Le pardon ne se fait que sur soi-même. C'est « Ah, je me suis trompé ». Mais oui, j'ai joué à la séparation. J'ai joué à la séparation, très bien, ça n'a rien de mal. Et puis je me suis laissé piéger dedans, c'était une erreur. C'était impossible cette séparation. Dieu est Dieu, à l'infini. D'ailleurs, si on est là encore pour en parler, c'est que, bien sûr, tout était, disons, sécurisé, verrouillé. Il est impossible que Dieu ne soit pas Dieu. Il est impossible que nous ne soyons pas l'expression de Dieu, le vivant, la vie. Sinon, nous ne serions pas là à parler, à interagir. Et quand nous sommes perplexe, quand nous sentons las, fatigués ou désespérés, eh bien nous pouvons regarder ça en face et faire silence, respirer, accueillir pleinement le moment où nous sommes et demander à l'esprit de nous montrer sa vision. Je parle de l'esprit avec un E majuscule, l'esprit, ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Cette vision, elle n'a jamais changé, elle ne changera jamais. Cette vision, c'est la vision de qui nous sommes. C'est la lumière que nous sommes. Éternelle. Et rien d'autre. Elle n'a pas d'opposé. La peur, l'angoisse, le manque, la séparation, la haine, tout ça, c'est imaginé. Y compris la douleur ou la souffrance. C'est vécu comme réel, d'accord. Mais c'est imaginé. Ça demande le silence intérieur. Ça demande un lâcher prise total. Et on fait ce qu'on peut. On est dans un processus les uns les autres de lâcher prise et on apprend ce lâcher prise. C'est pour ça que le cours en miracle nous parle d'apprentissage. Mais c'est un désapprentissage. C'est un apprentissage où peu à peu on s'habitue, on veut dire on s'entraîne à rechoisir sans cesse la vérité et non plus l'illusion. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit « Un esprit non entraîné ne peut rien accomplir. Un esprit s'entraîne à quoi ? Est entraîné à quoi ? À rechoisir, dans l'instant, l'amour, l'ouverture de cœur, et non plus la fermeture. Choisir l'amour, et non plus la peur.
Moi, je voudrais dire qu'il y a une image qui m'aide beaucoup quand je me sens seule, désespérée et séparée de tout et de tous. C'est de me dire que je suis une partie, enfin que nous sommes des parties comme des cellules d'un grand corps qui serait l'humanité. Et dans ce cas, je me dis oui, tout reprend du sens puisque tout le monde est différent et en même temps fait partie d'un grand tout. Et donc chacun a un point de vue différent tout en ayant raison puisqu'il n'est pas au même endroit. Alors il a raison puisque effectivement il ressent quelque chose de différent, il voit quelque chose de différent et pourtant il est... il est au même endroit. Par exemple, quand on est dans un même lieu, on peut dire qu'on voit des choses différentes et pourtant on est bien sur le même lieu parce qu'on est dans l'espace, pas au même endroit. Alors effectivement, certains vont voir un côté, d'autres un autre. Et finalement, toute l'incohérence reprend du sens et moi, ça m'aide dans la mesure aussi où c'est ma bulle qui s'unit à d'autres bulles et puis c'est comme des cellules et puis on arrive à la vastitude de ce qui est au départ, ce qui peut paraître, en tout cas pour moi, par moment comme une petite prison, une boîte. Finalement, c'est poreux et puis ça s'agglomère et puis ça fait c'est de plus en plus grande, de plus en plus vaste et puis infini finalement. Je voudrais partager aussi que pour moi, ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est vraiment de la concrétisation de décisions, des choses se font de manière rapprochée alors que elles étaient en gestation depuis longtemps pour moi. J'ai changé de numéro de compte en banque, de numéro de portable. J'ai arrêté une activité que j'ai créée il y a 14 ans. J'en ai fait le deuil et en même temps, avant d'aller la clôturer deux jours avant, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, peut-être que ça a eu son importance dans le fait que j'ai pas trouvé le sommeil. Et d'ailleurs, quand je suis allée la clôturer, j'ai reçu une blague cosmique puisque j'avais demandé à mon ange gardien, parce que j'ai appris que qu'on a tous un ange gardien pour ceux qui y croient, de la cabale et en fonction de ma date de naissance, et il est lié à la couleur bleu indigo. Et donc j'avais demandé à mon ange gardien de m'accompagner pour cet événement, bon, c'était une formalité, hein, mais bon, j'avais quand même j'étais en même temps détendue, puis en même temps je me disais bon c'est la première fois que je vis ça, voilà, bon. Et donc ma comptable m'a accompagnée et Et voilà, puis après, ça s'est terminé, on s'est dit au revoir. Et puis à un moment donné, j'étais sur le trottoir et puis j'allais un passage piéton. Et puis je me retourne et derrière moi, il y avait deux bonnes sœurs avec des capes bleu indigo. Bon, c'est pas tous les jours que j'en vois habillées comme ça. Alors elles étaient je ne sais pas comment on dit, mais elles avaient la peau mate, enfin elles faisaient un peu devaient venir des îles ou je ne sais pas, enfin habituellement bon déjà elles sortent pas beaucoup en ville, mais en plus quand je les vois elles sont pas habillées en bleu, enfin c'est vraiment un bleu particulier. Bon, et j'ai éclaté de rire intérieurement, je me suis dit bon ben merci, c'est bon, ok, c'est bon. Voilà, et quand bien même c'est une construction de ma part, ça m'a mise en joie parce que c'était vraiment comme une réponse intérieure et voilà, c'était très beau. Et je me suis dit bon ben voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai lâché 14 ans de travail, de reconnaissance. Voilà, la grande créatrice de l'année. Voilà, et puis en même temps, ben je me sens bien comme ça, d'avoir lâché, parce que c'était devenu, c'était obsolète. Je n'avais plus la joie, plus l'énergie. C'est comme si c'était une autre personne et qui avait créé tout ça. Et je m'en suis félicitée. Mais aujourd'hui, je me félicite d'avoir arrêté, parce que ça n'est pas un échec. C'était vraiment un cycle, et d'autant qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se profilent, et j'en suis très heureuse, et je commence à être bombardée d'images, de mots, de choses qui me font beaucoup de joie. Ça s'accélère. Voilà. Sinon, je voudrais raconter aussi une autre blague cosmique. C'était la semaine dernière. C'était en début de semaine, la semaine de la solidarité dans une mairie. Donc, j'y suis allée pour chanter pour la paix. Bien que je ne sois pas une grande chanteuse, mais enfin, bon, c'était pour la joie de partager. Voilà. Et puis, il y avait très peu de monde, et il se trouve que ça s'est transformé en causerie. Et il y avait dans la salle une jeune femme qui avait une association pour des femmes en Afrique. Bon, voilà, alors elle s'est présentée. Bon. Et puis, moi, je ne savais pas quoi dire. Et puis, comme j'avais des bijoux avec moi que je fabrique, et que je ne sentais pas de les vendre comme ça, de but en blanc, enfin, je ne le sentais pas, mais enfin, je les avais quand même avec moi, je me suis dit, j'ai proposé de les vendre au profit de l'association de la jeune femme. Alors, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin. Des personnes sont venues acheter. Je lui ai remis l'argent et j'étais très contente parce qu'en plus, c'était une cause qui rejoignait l'association que je veux créer. Donc, je trouvais ça formidable. Et puis, donc je discute avec cette jeune femme et elle me dit « Écoutez, je fais des ventes. Si ça vous intéresse de participer à Noël, j'ai dit « D'accord, voilà. » C'est combien? Donc elle me dit une somme. Finalement, après, elle me dit, bah, écoutez, vous avez fait un beau geste, vous n'auriez rien à payer, voilà. Et je me suis dit, c'est quand même drôle. Je vais dans un endroit, moi qui cherchais des ventes pour Noël, parce que j'en ai déjà de prévues, mais je suis en recherche d'autres ventes à faire pour exposer et vendre mon travail. Et je fais ce geste. Et cette jeune femme, il se trouve qu'elle organise des ventes. Je me dis quand même bravo, fallait le faire. C'est-à-dire que j'aurais voulu le faire. Oui, c'est au fond, c'était parfait. Tout était parfait. Et c'était incongru. Et je me suis dit, récompense directe. Et une autre histoire, c'est arrivé à une jeune femme que je connais. Elle a invité elle adore le théâtre. Elle a invité une de ses amies au théâtre. Bon, elle n'a pas spécialement de gros moyens en ce moment. Et elle est dans la salle de théâtre, elle a trouvé 20 euros. Et je trouve ça très beau. Pour moi, c'est des blagues cosmiques parce que ça veut dire, moi, j'aurais pu me dire, bah oui, mais je vais donner, mais moi, j'ai besoin de cet argent. Hein. Et puis finalement, bah voilà, finalement, je suis récompensée au centuple d'un petit geste qui ne va pas changer la phase de ma carrière, qui m'a fait de la joie sur le moment, qui a fait... je sais pas, j'ai senti une belle circulation sur le moment des personnes qui m'ont laissé leur mail après, et parce que c'était au-delà de la vente qui n'est pas très intéressante, moi je trouve, s'il n'y a pas d'échange autour. Voilà, donc je trouve que ce sont des petits événements qui me montrent cette trame invisible et avec humour. Parce que sur le moment, moi, j'ai toujours un moment de comme une vapeur, une chaleur qui me dit waouh, c'est pas possible, il faut que je le raconte, c'est pas possible, c'est incroyable. Enfin, je sais pas, il y a un enthousiasme. Voilà, c'est joyeux, c'est une forme d'amour. Et puis là, je voudrais dire que j'ai tiré dans le petit la petite panière une des leçons, c'est bien ça, c'est une leçon du courant miracle qui dit Père, je ne veux que me souvenir de toi. Et ce qui est très drôle, c'est que en ce moment, je ne suis pas en contact avec mon père, mon papa dans la vie, mon père biologique, Et je lis actuellement un livre de Michel Odoul qui parle de la psycho-énergétique et de nos maux du corps qui nous ramènent à nos relations, à nos déséquilibres, voilà. Et il se trouve que moi j'ai des petits bobos, hein, mais tous du côté gauche. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai, j'ai eu ça, mais alors de la tête aux pieds, hein. Et pas tous en même temps, évidemment. Et là, aujourd'hui, je tire cette leçon, Père, je ne veux que me souvenir de toi. Alors, bien sûr, ça me parle, comme disait tout à l'heure Sylvain, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de ma vie quotidienne, hein, effectivement, du fait que j'ai pas de contact avec mon père actuellement, il est malade, etc. Mais c'est, pour moi, c'est comme une digestion et un temps de repos où je m'accorde cette adolescence et ce moment de repli sur moi pour me connaître mieux, et ça n'est pas contre lui, mais c'est pour moi. Et j'ai décidé de m'accorder ça. Et aussi, il y a la dimension d'amour sans fin, sans début, du Père. Et je suis effectivement en ce moment aussi en train de m'accorder, de me souvenir de mon autre dimension, ma dimension plus vaste. Et celle qui et aussi je me rends compte que je peux me relier, me sentir reliée à tout et à tous par la petite porte du présent, puisque j'en ai fait l'expérimentation, en particulier ces derniers jours où j'ai traversé des événements qui m'ont déplu. C'était difficile pour moi, c'était affectif, donc c'était pire qu'une rage de dents, c'était insupportable, et voilà, et je me suis dit, mais j'en ai marre, je voudrais que ça s'arrête, ça va se calmer, bon. Et puis, la chose efficace que j'ai trouvée, c'est de me dire, bon, je ne suis pas arrivée tout le temps, mais les fois où j'ai réussi, ça m'a bien soulagée, de me dire, bon, je suis là maintenant, et c'est ça qui compte, et tout va bien. Et d'être sur ce fil, et de ne pas me soucier de ce qu'il y a devant, à droite, à gauche, derrière, eh ben, ça m'a coupée du foyer de ma souffrance qui n'était pas là, parce que c'est une chose que je ressassais. Ça m'a bien aidée, et je me suis dit oui, ça c'est vraiment formidable de se remettre sur ces deux pieds, ces deux petits pieds, parce que des petits pieds c'est quand même pas grand, des pieds, hein. mais en même temps, c'est notre point de contact, donc il n'est pas anodin, même s'il est petit. Enfin, je parle pour moi, qui n'ai pas des très grands pieds. voilà, et de me remettre là, de me dire, bon, je suis là, c'est ce qui compte et tout va bien, voilà. De me rassurer moi-même, de penser à mon enfant intérieur, puisque je n'avais pas de prise sur l'extérieur, je me suis dit, bon, au lieu d'avoir des torches braquées sur l'extérieur qui balayent, puisque je suis impuissante, je vais regarder vers moi, je peux rien faire d'autre. Et puis finalement, ça m'a apaisée, voilà. J'ai parlé.
Alors, ce que je ressens dans cette réunion, mais c'est assez fréquent, c'est que à force de ne rien vouloir faire, à force de ne rien vouloir en particulier, à force d'être simplement présent, il y a quelque chose qui se pose en moi. Parfois, j'appelle ça la descente de l'esprit parmi nous. Mais c'est qu'une image, en fait. Ce qui descend, ce que je vois qui descend en moi, ce sont les différentes barrières qui disent « fais ceci, fais cela », qui manifeste une forme d'agitation, qui dit il faut qu'il se passe quelque chose, entre dans l'action. Et le fait de ne rien faire, de ne rien vouloir, ou d'être à l'écoute de ce qui se dit ici, installe en moi un climat de confiance qui est relativement impressionnant. Et ça me remémore une phrase qui parle un peu de ça. Un poète perse qui s'appelait Rumi qui disait « Votre tâche sur terre n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et à déconstruire toutes les barrières que vous avez érigées contre l'amour. » Parce que l'amour est là tout autour de moi. Et quand j'arrête de faire, je peux un petit peu plus trouver la paix dans laquelle l'amour ambiant, je dirais, peut être perçu. Dans lequel il n'y a rien à faire pour être heureux. Il y a juste à arrêter de m'imaginer que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que moi j'appelle l'alchimie de ces groupes. L'alchimie, au sens propre, c'est transformer le plomb en or, et au sens subtil, c'est transformer l'agitation en calme, transformer l'ombre en lumière, transformer la peur en amour. Mais je ne transforme rien d'autre que ce comment je regarde, hein, comment je me regarde, comment je regarde mon état d'esprit. Et mon état d'esprit, lorsque je n'encourage pas l'agitation mentale, Alors l'ego, mon ego, mon mental, mon corps émotionnel aussi, se tranquillise. Parce que je suis le principal agitateur de mon mental. Je suis celui par lequel le mental dit « Et alors, et alors, et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as raison maintenant? Qu'est-ce qu'il faut répondre maintenant ?» Voilà, c'est très agité, hein, ces pensées-là. Et je suis aussi celui qui peut dire « oh là, doucement, doucement, doucement. Il n'y a rien à faire de spécial. S'il y a quelque chose à dire, ce quelque chose s'exprimera à travers moi. Je n'ai pas besoin de le désirer à ce point-là. » Alors, dans ce calme, dans ce non-faire, dans ce non-désir de quoi que ce soit d'autre que l'instant présent, eh bien, il se trouve que beaucoup de choses se révèlent pour moi. Il y a d'abord cette paix. Quelqu'un parlait décompliquer les vies. Hein. C'est une femme qui s'appelle Aurelia Louise-Jones. Elle disait... Pour passer de la troisième dimension à la cinquième, d'abord décompliquez vos vies, trouvez les choses simples dans vos vies, et puis soyez simples aussi vous-même. Et c'est ce qui me semble se passer dans ces groupes où, et d'autres, hein, où il n'y a rien à faire en particulier. Nous pouvons honorer l'être que nous sommes. Et... si l'être que je suis est un être de lumière et un être d'amour, je n'ai pas besoin de vouloir que ça se manifeste. Simplement, il se manifeste lorsque je ne l'empêche pas de se manifester. Parce que l'ego a une voix assez forte. Et l'ego a une présence qui dit « je veux, je veux, je veux » et qui est de nature à masquer les choses subtiles dont je suis constitué. Donc c'est beaucoup repris par Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. Si j'arrête de mettre de l'huile sur le feu s'éteint. Et c'est l'ego, c'est une sorte de feu que j'alimente en permanence quand je dis je veux avoir raison, quand je veux qu'il se passe tout le temps des choses, quand je veux... que ma vie prenne une direction en particulier, mais avec la volonté, hein, avec quelque chose qui est figé, pas avec le vent me portera. Hein. Le vent, l'intuition, l'esprit me dirigera. Et c'est ce que je dis en début de groupe, quand je dis je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et je peux faire confiance que ce qui a à être dit sera dit. Et tout le reste n'a aucune importance. Voilà. Mais je vois bien que ça se passe naturellement. Ça se passe tout seul. Simplement, quand j'arrête de remuer l'eau et faire remonter la vase qui est déposée au fond. Quand j'arrête de remuer l'eau... Hein, l'eau de mon esprit, peut-être, hein. Alors forcément, les particules redescendent doucement. Et l'eau redevient claire, et mon esprit redevient clair. Qu'est-ce qui perturbe l'esprit? L'agitation du milieu ambiant de l'esprit. C'est un esprit qui est agité par nature, l'ego. La nature de l'ego, c'est d'être agité. Bien sûr, puisque la pensée de séparation... est une pensée complètement aberrante qui en elle-même porte ce germe d'agitation. Alors tout ça a un sens, notre expérience de dualité a un sens. Nous avons souhaité faire cette expérience, mais en même temps, nous pouvons être témoins de l'expérience de l'agitation et puis de voir à quel moment nous voulons... arrêter d'être agité. Est-ce que c'est ça qui est important ou est-ce que c'est notre paix intérieure qui est importante? Donc, Je peux observer l'agitation depuis l'endroit paisible. Ça, c'est une chose que j'ai réussi à faire. Quand ça s'agite, j'ai toujours en moi un témoin qui dit, tiens, Avi, là, ça crépite un petit peu dans ton cerveau. Là, ça bouillonne un petit peu. Là, il y a une petite envie de se mettre en colère qui pointe. Avant même que ça se déclenche vraiment. Et ce sont les prémices de l'agitation. Et puis quand je suis agité réellement, il y a une partie consciente de moi qui peut être témoin que ça se passe. Parce que, en effet, cela se passe. Mais s'il y a un témoin qui est là pour dire cela se passe, ce témoin-là n'est pas agité. Et ce témoin-là, c'est la partie pure de moi qui est dans la paix, qui est tranquille, qui peut aussi être témoin de comment l'ego se manifeste. C'est aussi la partie de moi qui, quand j'en suis conscient, me sauve. Parce que je ne suis pas à l'agitation si j'observe, si je suis témoin de l'agitation. La vraie question qui est importante, c'est qui observe ? C'est forcément pas l'agitation qui s'observe, puisque l'agitation est dans l'agitation. Elle est tourbillon. Il y a une partie de moi qui est esprit pur, esprit vrai, conscience pure, qui est à distance de l'agitation et qui voit le tourbillon se dérouler. Cette partie-là, elle a le pouvoir non seulement de rester dans la paix, parce qu'elle réside en permanence dans la paix, mais elle a le pouvoir aussi de calmer le tourbillon. En disant, tu veux t'agiter un petit peu, d'accord, ok. Tu veux continuer encore un peu, d'accord. Comme Dieu dit d'accord. Ouais. Et la partie consciente de moi-même, c'est la partie reliée à Dieu. C'est la partie qui dit, voici une expérience d'agitation qui se présente. Voilà. Est-ce que je vais entrer dedans et oublier qui je suis avec, ou est-ce que je vais l'accompagner de ma conscience et tirer les profits de cette expérience d'agitation, tirer un enseignement, peut-être quelque chose que j'ai à apprendre aussi de cette agitation. Donc, c'est une chose de se perdre dans le tourbillon, et c'est une autre de constater le tourbillon et de dire, est-ce que je peux... décider de quand le tourbillon cessera. Est-ce que je peux décider de choisir maintenant de choisir l'amour, de choisir la paix, de choisir le calme? Est-ce que ce tourbillon m'aide? Peut-être momentanément il va m'aider à quelque chose, je ne sais pas quoi forcément. Mais c'est une expérience, et en vérité, en tant qu'esprit pur, je l'ai choisi forcément, puisqu'elle se déroule. Il n'y a pas d'expérience qui se déroule dans ma conscience qui ne soit pas choisie à un niveau ou à un autre, puisque je suis un être divin, créateur et responsable. Donc oui, j'ai choisi l'agitation, très bien. J'ai choisi la haine, j'ai choisi la peur, j'ai choisi la colère. Et quelqu'un disait une phrase qui m'a beaucoup parlé. Nous sommes dans l'amour, et puis il y a dans cet espace d'amour, il y a comme un élastique, et nous saisissons l'élastique et nous sortons de l'amour, nous pensons et nous nous éloignons, et plus nous nous éloignons et plus l'élastique se tend, et à un moment donné, joyeusement, nous relâchons l'élastique et nous revenons à l'amour. Donc ça veut dire quoi? Nous faisons l'expérience de apparemment sortir de l'amour avec l'agitation pour joyeusement y revenir. Et qu'est-ce qui peut être utile? C'est lorsque nous sommes sortis apparemment, parce que tout ça, bien sûr, c'est une illusion. L'amour est partout, donc il n'y a aucun moyen d'en sortir. Mais quand je fais cette expérience, je peux tenter d'observer l'amour en étant apparemment à distance, en étant apparemment hors de l'océan d'amour. Donc, j'ai une perspective sur l'amour que je ne peux pas avoir vue de l'intérieur. C'est ce que disait Simon Leclerc, et c'est des mots qui m'ont beaucoup touché, que je cite souvent, qui canalisait une entité qui s'appelle le collectif Ashtar, ça n'a pas beaucoup d'importance, et il disait, Demandez à un poisson ce que c'est que l'eau, il va avoir beaucoup de mal à vous définir l'eau, parce qu'il est en permanence dedans, et parce qu'à force d'être dedans, il oublie ce que c'est. Mais sortez un poisson de l'eau, et à ce moment-là, demandez-lui ce que c'est, et là, ça va être parfaitement clair pour lui que l'eau est vitale, qu'il a besoin urgent, de manière urgente d'y revenir, et que l'eau, c'est tout pour lui. Hein. Pourquoi ? Parce que simplement, il est sorti de l'eau. Il a eu une perspective et tout d'un coup, il a vu à quel point il baignait dedans et qu'il se rendait plus compte qu'il était dedans. Voilà, et je trouve cette comparaison très belle parce que pour nous, l'eau, c'est l'amour. Hein. Et nous avons, en tant qu'être divin, puissant, illimité, qui pouvons manifester absolument tout ce que nous souhaitons, nous avons voulu expérimenter ce que c'est qu'être hors de l'amour. Et voilà le but de la dualité. Ce n'est pas possible, hein, c'est une idée aberrante, puisque l'amour est Dieu et tout ce qui est, donc il n'y a rien en dehors de cette réalité-là. Mais le cours donne une métaphore, une image, en disant que nous nous sommes endormis. Nous avons voilé notre nature divine momentanément pour fabriquer une expérience dans laquelle apparemment l'amour serait absent, ou l'amour serait en face de nous. Et si l'amour est en face de moi, je peux m'émouvoir de sa beauté, je peux m'émerveiller parce que je l'ai en face, parce que je suis le spectateur, parce que je m'en suis distancié. Dans notre monde, se distancier de quoi que ce soit, ça peut être salvateur. Si je suis en colère et que j'observe ma colère, comme tout à l'heure je disais, j'observe l'agitation, tout d'un coup, je ne suis plus identifié à ma colère. Oui, je vois, il se passe. Il y a l'expérience de la colère, disait une femme éveillée qui ne se confond plus avec le corps, ni physique, ni émotionnel. Elle ne dit pas « je suis en colère ». Il y a l'expérience de la joie. L'expérience de la joie se présente. Hein. Ce n'est plus « moi, je vis ça hein, » ou « je veux ça ». Donc, cette distanciation est l'occasion de poser la question « qui observe à distance ?» cette question, ça aussi se résume à « qui suis-je vraiment ?» Et c'est la question qui remplace ou qui annule toute autre question. Hein, lorsque je peux poser en vérité cette question-là, je suis à la question ultime hein, de qui suis-je ? Qui suis-je ? Et peut-être que la dualité, c'est seulement l'occasion de poser cette question. Et en vérité, lorsque nous nous retrouvons dans ces groupes, nous posons en permanence cette question. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Et nous nous utilisons en tant que miroir les uns des autres parce que ton expérience est différente de la mienne et tout d'un coup je me dis « Ah mais oui, ah oui, j'avais pas eu ce point de vue-là, merci, chère sœur, d'avoir évoqué ça de cette manière. » Alors cette multiplicité, hein, comme toutes les cellules d'un grand corps gigantesque, m'aide à voir une autre vérité parce qu'il y a ma vérité et l'expérience que je vis. Qui est toujours vrai, ce que je ressens, ben c'est vrai pour moi. Et il y a la vérité absolue, hein, celle de l'amour, celle de Dieu, celle qui est inchangeable. Et le but de la question « Qui suis-je ?», c'est de me rappeler de cette vérité-là que j'ai momentanément voilée, parce que si je n'avais pas voilé cette vérité, jamais, 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 je n'aurais pu sortir de l'amour en pensée. Jamais. Parce que j'aurais tout de suite perçu que c'est impossible. Et l'expérience n'aurait pas duré plus qu'une microseconde. Un milliardième de... Voilà. Un non-temps, disons. Donc, oui, voiler notre nature divine pour vivre l'expérience de la dualité, c'était indispensable. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de la levée du voile dans cette période qu'on appelle... l'apocalypse hein, ou la levée du voile ou dans laquelle aussi nous nous éveillons de plus en plus et puis comme des champignons sur terre il y a de plus en plus de personnes qui se révèlent à elles-mêmes qui répondent à la question « Qui suis-je en vérité ?» Hein? Et j'ai besoin de peut-être de savoir à travers la dualité qui je ne suis pas pour, par opposition, répondre à la question « Qui suis-je ?» Si je ne suis pas la colère, si je ne suis pas l'agitation, si je ne suis pas la haine, si je ne suis pas l'émotion, si je ne suis pas la guerre, si je ne suis pas le criminel, si je ne suis pas le coupable, ben ça fait déjà un bon paquet de ce que je ne suis pas. Hein? Et en vérité, quand j'ai éliminé tout ça, parce que tout ça, je peux voir que ça se déroule, mais en vérité, il y a toujours quelqu'un pour l'observer, et je vais arriver à la réponse ultime, ben je suis l'amour, où je suis Dieu, hein, où je suis la conscience infinie, où je suis l'illimité, je suis l'existence. Voilà, je vais arriver à cette réponse qui est « Dieu est et je suis ». Et c'est la même phrase, dite de deux manières différentes. Mais je ne peux pas dire ça depuis un espace agité, c'est impossible. Parce que l'espace agité entretient l'esprit divisé qui dit tu n'es pas moi et je ne suis pas toi et je suis la colère, hein, je n'observe pas la colère, je suis la colère et je suis l'agitation et j'ai raison, hein, et tu as tort, et donc j'entretiens cette distance qui est entre toi et moi alors qu'il y a une distance zéro entre toi et moi. Nous sommes composés de la même matière et nous baignons dans le même océan et nous sommes ensemble, la même chose. Pur amour, pur esprit. Nous ne sommes pas corps. Hein, nous avons imaginé des corps simplement pour répondre à la question que se passerait-il si nous arrêtions d'être divins, si nous étions limités, si l'amour n'existait pas. Voilà, ben on l'a fait. Hein, magnifique, magnifique. On a voulu jouer à ce jeu. C'est important. C'est important de se rappeler, comme disait Sylvain, que nous sommes dans un bac à sable, dans une grande pièce de théâtre cosmique, que ceux qui jouent, ce n'est pas nous réellement, mais c'est des projections de notre esprit qui croient à des choses fausses, hein, qui imaginent un scénario, qui y croient tellement fort que ce scénario est exécuté en pensée. Hein. Il est honoré, mais il est honoré, je ne veux pas dire qu'il est réel. Il est honoré, se dire que je fais tout ce qu'il faut pour configurer mon esprit, pour que ça semble vraiment réel. Voilà, tout ça, ça n'altère pas la réalité de Dieu est. C'est pas facile pour l'ego, hein, d'imaginer que ce monde n'existe pas vraiment. Surtout si je m'identifie à l'ego. Surtout si je m'identifie au corps. Surtout si je me dis que mes pieds sont sur quelque chose de solide, et que ça me tient, hein, surtout si je crois au monde, si je ne crois qu'au monde et que le monde n'existe pas, si je ne crois qu'au corps et que le corps n'existe pas, alors c'est sûr que j'ai un gros problème en déclarant tout ça irréel. Et c'est sûr que je peux carrément terroriser en déclarant que cela n'existe pas. Mais si je sais que je suis d'une nature invulnérable, puissante, omnipuissante, omnipotente, illimitée, pur amour, qui n'est pas dans le temps, qui ne naît pas, qui ne meurt pas, qui est dans une abondance incroyable et qui a voulu jouer à ce jeu, je peux très bien dire ben, j'arrête de jouer. Mais ça n'altère pas une seule seconde qui je suis vraiment. C'est pour ça que Jésus nous prend par la main pour faire ce travail et ce parcours et ce curriculum, comme il l'appelle dans Un cours en miracle. 365 leçons pour défaire progressivement l'ego, c'est-à-dire me désidentifier de cette pensée fausse qui dit « je suis le corps », qui dit « ce monde est réel » et qui dit « Dieu n'existe pas », hein, où l'amour n'est pas réel, seule la peur est réelle. Donc, on y va doucement, hein. On y va doucement, surtout si, parce que la croyance en la division est très forte et très puissante, parce que nous nous sommes donné les moyens d'y croire réellement, de croire que c'est réel. Alors, il y a aussi besoin de beaucoup d'amour pour sortir de la croyance, hein, et de revenir à notre source progressivement en défaisant de plus en plus de pensées fausses. La pensée fausse, c'est ce que je dis est vrai, mais ce que toi tu dis, c'est faux. Ce que toi tu dis, c'est tu as tort, et ce que moi je dis, j'ai raison. Hein, au lieu de dire tu es amour comme moi je suis amour, et puis on dit tous la vérité. On dit tous la même chose. Voilà. C'est un désapprentissage, comme disait Aurélia Louis-Jones. Il s'agit de décompliquer la vie. Hein, la vie n'est pas compliquée, mais notre esprit aime compliquer, notre esprit divisé aime compliquer la vie. Essayez d'aimer, mais aimer, ça ne demande pas de faire un effort. Aimer, ça demande d'arrêter de faire des efforts. Aimer, c'est arrêter de résister à l'amour. L'amour est là, c'est l'océan, je suis dedans. Mais si je construis une muraille en béton armé autour de moi et que je fais le vide d'eau, eh ben je vais croire que je ne suis pas dans l'amour. Hein. Mais ce sera qu'une perception qui n'est pas vraie, hein, que j'ai fabriquée. C'est pour ça que on offre aux enfants, je trouve que c'est assez extraordinaire, ça ne peut pas être un hasard. On leur offre un jeu qui s'appelle le jeu de l'ego. Et moi, je mets une apostrophe entre le L et ego. On leur offre, et c'est un jeu de construction et de fabrication. Pour fabriquer des outils, des trucs, des machins. Et voilà, on les initie à construire des scénarios, des choses, des machines, avec des petites briques élémentaires. Voilà, mais en vérité, nous arrivons sur Terre avec un jeu de l'ego, déjà tout programmé dans notre esprit, qui dit, tu es séparé de l'amour et de tes frères et sœurs, qui dit l'amour ça se mérite, ça se gagne, tu n'as pas de réel pouvoir à moins que tu n'essayes de manipuler quelqu'un, à moins que tu essayes d'être supérieur à quelqu'un. Tout ça c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça que l'ego est dans le monde du faire et que l'amour est dans le monde de la simplicité et de l'être. Pour être, il n'y a aucun effort à faire, mais nous sommes déjà, sans bouger un seul muscle, nous sommes qui nous sommes. Et c'est pour ça que dans ces réunions, l'invitation, c'est revenir à un état d'être, celui qui est déjà là avant que l'esprit s'agite. En vérité, l'esprit s'agite et pose son agitation sur une toile de fond qui est l'amour. Et il accroche, voilà, il accroche ses petites agitations sur quelque chose qui est là tout le temps, partout. Et il peut en accrocher tellement que je vais oublier qu'il y a une toile de fond. Je vais oublier que chaque mot que je dis, il est posé sur un champ de conscience qui est sous-jacent. C'est Eckhart Tolle qui disait ça. Dans lequel et sur lequel le mot est prononcé et qui se révèle dans le silence qui sépare deux mots. Et dans ce silence-là, il y a je suis, il y a la paix, il y a rien besoin de faire pour aimer. Dans ce silence-là, il y a la vérité. Dans ce silence-là, l'ego dit « oui, patron ». Parce que c'est moi qui dirige l'ego. Et c'est moi qui arrête d'alimenter les flammes. Pourquoi l'enfer, c'est plein de flammes ? Parce que j'arrête pas de verser de l'huile. J'arrête pas, on dit mettre de l'huile sur le feu, ou les avocats, pour avoir raison, mettent de l'huile sur le feu, c'est-à-dire rajoutent des arguments pour avoir raison, pour gagner le procès. Mais imaginez un avocat qui ne souhaite plus gagner le procès, il va se taire, il n'y a rien à dire. Imaginez un avocat qui dit les choses sont parfaites telles qu'elles sont. Ben, non seulement il n'y a plus d'avocat, mais il n'y a plus de procès. n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si je dis tout est perfection, c'est la négation de l'ego. Parce que l'ego dit tout est imparfait, dit exactement le contraire. C'est pour ça que le monde de l'ego et le monde de l'amour sont des éléments qui ne se recoupent jamais. Il n'y a rien de commun, pas le moindre atome, entre le monde de la séparation, de l'illusion, et le monde de la réalité. Dans le monde de l'ego est peuplé d'avocats, et le monde de la réalité est pure perfection, et il n'y a rien qui plaide quoi que ce soit. La perfection n'est pas à plaider, elle est juste à constater. Elle est juste, elle existe. De tout temps et de toute éternité, la perfection est. Dieu est, l'amour est, et je suis également. Donc, peut-être avez-vous perçu que je suis est très simple. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Il y a juste à constater l'existence. Dans ce constat, l'ego est défait. Parce que dans le je suis, il n'y a pas d'agitation. Il y a juste cela est, et Dieu est. Alors, il me vient de lire un petit passage ou deux de ce très beau livre que je découvre à chaque fois un petit peu plus, l'Évangile selon Jésus, qui a été reçu en canalisation de Paul Ferrini, c'est-à-dire que c'est reçu d'une manière médiumnique, c'est des mots ou des phrases qui apparaissent dans l'esprit, et Paul Ferrini est le scribe de ces phrases. Et ces phrases me touchent beaucoup, et ces phrases pour moi émanent d'une grande et belle vérité. Et c'est Jésus qui parle en vérité, c'est Jésus qui se connecte à l'esprit de Paul Ferrini et qui parle d'amour d'une manière qui me touche beaucoup. Alors le sous-titre, il est très beau aussi, l'Évangile selon Jésus, un nouveau testament pour notre époque. Et je trouve que la formulation est très actuelle et très simple et éminemment facile à comprendre. Et que ce livre peut nous aider, s'il y a déjà une volonté de se réveiller, s'il y a déjà un appel plutôt à s'éveiller, alors ce livre peut nous aider à le constater, à le confirmer aussi. Voilà, alors j'ai mes yeux qui voient tout, trouble tout d'un coup, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais laisser ça se stabiliser. Alors je vais lire doucement, au fur et à mesure que je découvre les mots. Les gens n'ont pas besoin d'avoir les mêmes croyances pour vivre en communion spirituelle. Déjà, ça s'apporte beaucoup comme phrase. La communion se produit en dépit de l'esprit et non pas à cause de lui. La communion se produit lorsqu'on inclut les autres dans l'amour sans jugement. Elle peut arriver partout, au sein de n'importe quel groupe de personnes qui croient foncièrement en l'amour inclusif, inconditionnel. Voilà, ça me parle de ce qui peut s'élever au-dessus des religions qui prônent certains dogmes. S'il y a bien quelque chose qui est vrai pour chacun, c'est que le véritable amour nous fonde, nous constitue et qu'il ne repose sur aucune condition. Pour aimer, il n'y a aucun jugement à produire. Le jugement, c'est ce qui me sépare justement de l'amour. Et on peut facilement dire que la spiritualité, c'est ce qui s'élève au-dessus des dogmes, au-dessus, et ce qui nous rassemble au-delà des religions, au-delà de ce qui est dogmatique et divisé. C'est ce que j'entends. Hein. Parce que si j'entends un dogme qui dit « si tu fais une mauvaise action, Dieu te punira », déjà, pour mériter l'amour, il y a une condition. Hein. Et c'est déjà plus de l'amour absolu, c'est déjà plus de l'amour pur. Alors, je vais essayer de continuer parce que la suite est assez intéressante. Je vais mettre un peu de lumière. Que la lumière soit. Ah, ça va mieux. Le moment est venu pour que les lieux de culte se redéfinissent. Ils doivent cesser d'être des lieux où l'esprit s'accroche à des croyances linéaires nés d'un consensus de la peur pour devenir des lieux où explorer l'être, où les différences sont bien accueillies. C'est l'amour et non pas l'accord qui doit devenir le lien qui maintient la communauté dans son unité. Voilà. Ça peut parler de, entre guillemets, une nouvelle religion pour l'humanité, hein, une seule et unique religion, et la religion dans le sens ce qui nous relie. Hein, ce n'est plus un ensemble de croyances auxquelles je dois adhérer pour entrer dans un certain culte, hein, auquel je dois absolument adhérer. Et si c'est le cas, il y a une condition, hein, il y a déjà une condition. Alors, par la suite, juste un autre petit chapitre, il y a une partie du livre qui s'appelle « S'ouvrir au miracle » et ça s'intitule « À l'intérieur, tout peut s'élever ». Seule la non-violence peut libérer de la violence. Ça paraît étonnant, hein, pour certains. Ça peut paraître étonnant. Dieu a besoin de votre coopération. Votre frère et votre sœur ont besoin de votre coopération. Vous n'êtes pas seul et vous ne pouvez pas vivre comme si vous étiez la seule personne à compter. Lorsque vous essayez de vivre en ne comptant que sur vous-même, c'est le faux pas et la chute assurée. Ce n'est que lorsque vos pensées et vos actes dépasse les besoins immédiats de votre ego, que votre vie entre dans le cadre de la loi de la grâce. Voilà. Et puis tout à l'heure, quand je lisais ce passage, me venait à l'esprit qu'il y a des lois humaines qui se fondent sur la division et la séparation. Il faut ceci, il faut cela, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est permis, ça c'est interdit. Et il y a des lois divines, qui sont des lois morales, mais dans le sens pas opposé au mal, hein, qui sont des lois universelles, hein, des lois d'amour, des lois de grâce, des lois d'harmonie, hein, qui sont toujours vraies, et ces lois-là ne s'opposent pas à autre chose. Hein, ne s'oppose pas à un état qui serait duel, qui serait opposé. Elles sont une expression de nos qualités divines. Hein, il y a plusieurs. Donc vivre avec l'état, vivre dans le cœur, c'est suivre les lois morales divines, ou les lois divines tout simplement. On peut enlever le mot moral également. Ce que Jésus dit, la loi de la grâce. Hein. Nous voyons bien que quand on dit loi d'amour, quand on dit loi de grâce, quand on dit loi d'harmonie, il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit. Hein. C'est au contraire quelque chose qui revient à un état détendu naturellement. Hein. Chaque fois que je m'éloigne de ça, de l'amour, ben je crée une forme de tension. C'est comme tout à l'heure je disais, tendre l'élastique. Alors il y a encore un paragraphe et puis après je vais m'arrêter. Il est de votre responsabilité de vous honorer et de prendre soin de vous. Bien Non, rien de ce qui vous honore ne peut être en quoi que ce soit préjudiciable à autrui. Mais agir de manière égoïste, en plaçant votre bien au-dessus d'autrui, est une invitation au conflit et au ressentiment. Ce monde est dur dans ce domaine. Celui qui profite des autres sera peut-être craint, mais ne sera pas aimé. Quand la roue tourne, ce qui est inévitable, et que cette personne entame sa chute, les autres ne sont que trop heureux de contribuer à sa destruction. Le monde extérieur vous renvoie inévitablement le reflet du produit de vos pensées et de vos actes. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Je m'arrête là. Chaque phrase est éminemment parlante. Chaque phrase, pour moi, est une graine de vérité que je peux laisser germer en moi. Parce que la vérité, au fin fond de qui je suis, je la connais. Hein, je ne l'ai pas oubliée à 100%. Et ces phrases-là, ces canalisations-là, ces groupes-là, sont autant de rappels de cette lumière que nous portons en nous, autant de rappels de cette vérité que nous avons en nous. Et la vérité s'exprime simplement en deux mots. Hein. Ce n'est pas très compliqué. L'amour est, ou Dieu est. Hein, et il n'y a rien d'autre à dire. Une fois qu'on a dit ça, on a décrit la totalité de l'existence. Hein. Et cette existence est félicité, bonheur, joie, abondance, expansion continue. C'est pas du tout un monde ennuyeux parce qu'on a dit l'amour est. Hein. C'est l'expression de notre vraie nature sans limite que nous avons momentanément occulté pour mieux vivre ce passage. Ce rêve, cette illusion qui, semblerait-il, arrive joyeusement à sa fin, hein, dans ces temps de révélation. Merci à l'Esprit d'avoir inspiré mes paroles. J'ai parlé.
J'aimerais revenir sur la façon dont on vient ici, dans cette aventure humaine, et la façon dont on s'adapte. Donc je voudrais parler de l'adaptation, quelque chose qui peut sembler marginal au départ, mais qui est très colossal. Le principe de cette expérience humaine, c'est la dualité. Tout est fait pour prouver qu'on est séparé puisqu'on s'amuse à jouer le jeu de la séparation. Donc je suis isolé dans un corps et tout ce que je vois n'est pas moi. Et donc on peut s'imaginer le petit enfant qu'on est, la petite fille, le petit garçon, là vous êtes là, nous sommes là, et puis on regarde et on dit c'est bizarre. Et nos parents nous disent tais-toi, écoute ce que je vais te dire. Je sais, toi tu sais pas, tu sais rien, toi t'es un petit bébé, un petit enfant. On va à l'église, on dit taisez-vous, vous êtes des pécheurs. Même vous naissez avec un péché originel. Ah, et l'enfant regarde ça et dit ah ça c'est étonnant ça. Et il prend ça pour vérité évidemment, puisqu'il a choisi en fait l'expérience de la séparation. Donc l'enfant, qui est d'ailleurs un être de lumière, a choisi cette expérience. Et cette expérience est une expérience. Donc, il se voit séparé. Sa réalité, c'est d'être séparé. Donc, c'est d'être victime. C'est d'être soumis aux autres. D'avoir à se trouver un bon job, à être excellent à l'école, à plaire à ses maîtres, à plaire aux règles sociales, à bien être un bon citoyen, etc., comme ça à l'infini. Et qu'est-ce que fait l'enfant, et puis ensuite l'adulte? Il s'aperçoit plus ou moins qu'il est plus ou moins heureux, mais il n'a pas le choix, il s'adapte, parce qu'il croit à la séparation. Il dit, c'est comme ça, je ne suis pas bien, je suis malheureux, je m'adapte. Je m'adapte. Alors évidemment, je vois les femmes qui sont, je vois le patriarcat, les femmes qui sont malmenées, et donc je vais militer pour la défense des femmes. Je m'adapte. Mais je crois que les femmes sont malmenées. Je crois comme une réalité à la séparation, c'est-à-dire au conflit. Je crois que tout va mal. Donc je m'adapte. Et donc je vais lutter. J'ai oublié, évidemment, puisque je crois à la séparation, qu'en fait il n'y a pas de séparation. J'ai oublié que c'est moi qui crée mon monde et que quand je vois les femmes maltraitées, c'est moi qui crée les femmes maltraitées. Quand je vois quelqu'un qui est victime d'un bourreau, c'est moi qui crée la victime et le bourreau. Quand je pleure en disant c'est inadmissible parce qu'il y a des camps de concentration, et il y a eu les juifs, il y a eu les nazis, etc., et puis ça continue à tous les niveaux sur cette planète, dans tous les pays, il y a des luttes, des guerres, au niveau d'ailleurs politique, au niveau religieux et au niveau familial, au niveau social, partout. Et donc je m'adapte et je fais de l'adaptation. Je fais de l'adaptation et je ne peux pas faire autrement parce que je crois à la séparation. Je crois à la réalité et je crois donc que je vais dire c'est la volonté de Dieu. Mon corps dépérit ou un tel est malade, je dis c'est la volonté de Dieu, ce qui est une aberration. Est-ce que Dieu a envie que quelqu'un souffre? Donc je dis, il y a souffrance, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que disent d'ailleurs beaucoup de gens dans les religions, en disant, voilà, c'est comme ça. Et donc je m'adapte. Eh bien, on arrête ça. Et c'est ça que nous dit notre cœur. La force qui est en nous, cette flamme, le divin qui est en nous dit, tu veux continuer? Tu veux continuer à croire à la séparation? Tu es libre, personne ne va s'opposer à toi. Si tu y crois, si tu crois que le passé va se répéter, il va se répéter. Tu veux lutter pour essayer de te battre contre les méchants, tu crées les méchants. Tu vas en créer de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux? Donc on s'aperçoit progressivement que toutes nos pensées sont des propositions divines. C'est, oh, peut-être que j'ai un cancer. Est-ce que je veux un cancer ou pas? Oui ou non? C'est ok. Ça n'a rien de mal, t'es pas le corps. Le corps peut disparaître, tu disparaîtras pas. Mais ça t'amuse, ça t'intéresse, qu'est-ce que tu veux? Ah mais comment, mais il y a des statistiques. Oui, il y a des statistiques, c'est vrai, parce que tout le monde y croit. N'oublie pas que c'est une pièce de théâtre et que les 7 milliards que nous sommes, eh bien nous avons voulu jouer cette pièce de théâtre. Donc elle est très très bien jouée. Et effectivement, ce qui se passe est le résultat de l'ensemble des croyances, des 7 milliards que nous sommes. À quel niveau est-ce que j'ai le choix? Au niveau de mon adaptation. Est-ce que je veux continuer à militer contre, aller fustiger des coupables, me couler dans le moule et dire mais non, mais on m'a appris ça et j'ai pas le droit de parler. Je suis obligé de suivre ce qu'on m'a dit parce que c'est la réalité. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est tellement fort que si on observe les différentes sociétés et les enfants et puis les adolescents et puis les adultes, ils croient à leur vérité. Un terroriste, il croit à sa vérité. On lui a appris que ceux qui ne sont pas de telle religion sont des impies et donc il faut aller les tuer et ça va faire plaisir à un dieu qu'on a imaginé. Et pour ce terroriste, eh bien, c'est la réalité. Et si je critique quelqu'un, je suis le terroriste. Si je pense que le terroriste a tort, je le crée, ce terroriste. Parce qu'il n'y a pas de terroriste. Il n'y a que la réalité divine. Il n'y a que la non-dualité. La dualité n'existe pas, c'est imaginé, inventé. C'est pour ça qu'on commence à comprendre pourquoi. Et Jésus insiste beaucoup en disant... On ne peut jamais assez répéter qu'il n'y a pas de monde, que c'est inventé, le monde n'est pas réel. Parce que si le monde est réel, Dieu n'est pas Dieu et Dieu n'existe pas. Et vous ne seriez même pas là. Donc cette question d'adaptation devient fondamentale. Qu'est-ce que je choisis maintenant? Est-ce que je choisis encore de rentrer dans le moule? Alors on va dire oui d'accord, mais alors tu ne payes pas tes impôts? J'ai pas dit que je ne paye pas mes impôts. J'ai dit que je fais ce que je sens. Et je le fais au nom de l'amour. Et donc quand je pousse la porte d'un bureau du fisc, je le fais avec amour. Quand je vais à la banque, alors que je sais que les banques sont un fléau social en apparence, mais il n'y a pas de fléau, c'est imaginé, et qu'effectivement, il y a 1% et 99%, et encore le 1%, il est même beaucoup plus petit que ça. Il y a 200 personnes qui possèdent la richesse du monde et qui passent par-dessus les États, et que les banques font partie du système où tout est conditionné pour que chacun surveille tout le monde et que, comme des moutons, tout le monde aille à l'abattoir, y compris ceux qui possèdent l'argent d'ailleurs. Ça, c'est le monde de la dualité, c'est le monde de l'ego. Et est-ce que je m'adapte à ça? Alors s'adapter, c'est pas aller lutter contre, justement. S'adapter, c'est aimer. Je veux dire, s'adapter, au contraire, c'est aller lutter contre, aller se battre. Tandis que je ne m'adapte pas. Je ne m'adapte pas à l'illusion. Je choisis la vérité. Je choisis la réalité. Je choisis qui nous sommes. Donc j'ai fait une petite erreur de diction, là, je me suis trompé, hein, quand je viens de dire. S'adapter, je répète, s'adapter, c'est choisir qui je suis. Arrêter de lutter. Après, je vais effectivement faire selon ma guidance. Donc je décide même d'aller dans la police, j'en sais rien, d'aller dans une société, de prendre un job. J'ai un très bon ami qui est dans une fabrique d'armes, une puissante fabrique d'armes. Il m'a dit lui-même, écoute, je n'ai jamais eu autant de relations amoureuses avec mes collègues. Et effectivement, c'est une occasion pour lui d'arrêter de juger. Parce que on fustige les fabriques d'armes, mais quand je fais ça, je crée les fabriques d'armes. Et donc je crée donc des participants et donc des gens qui fabriquent des armes. Et c'est comme ça pour tout. Donc l'adaptation fait partie de cette aventure de dualité. On apprend ça aux enfants, on leur dit « adaptez-vous, faites attention, vous êtes menacés ». Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? La peur. On apprend à se protéger. Donc on leur apprend la réalité d'un danger. On leur apprend la réalité de la séparation, la réalité des maladies, des virus, du fait que de fumer tue, on leur apprend tout ça. On leur dit « regardez bien, il y a des statistiques, regardez bien, il y a des spécialistes ». Il y a des psychologues qui connaissent très bien tout ça. En fait, les psychologues, les spécialistes ne connaissent rien du tout s'ils ont les yeux fixés sur la séparation. C'est pour ça qu'on a depuis longtemps des mythes, par exemple Perceval, dans les Chevaliers de la Table Ronde, où symboliquement il y a une épée qui est fichée dans un rocher et que celui qui va tirer l'épée va être le roi. Évidemment, c'est le roi intérieur. Et les grands costauds, tous les seigneurs qui ont des troupes, qui essaye de tirer l'épée et personne n'y arrive. Et l'enfant, lui, il arrive et il attire parce qu'il y croit. Il attire parce que c'est son cœur qui tire l'épée. Tout ça, c'est symbolique. Alors on répète ça dans nos littératures. On nous répète le mythe de la caverne de Platon, plein de choses. Et puis ça coule comme de l'eau sous les plumes d'un canard. Et puis on n'en fait pratiquement rien. Et indéfiniment, on revient. Et puis quand on veut pratiquer un peu sérieusement ça et qu'on dit « mais vous avez vu ce qu'il y a là? Vous avez lu le mythe de la caverne de Platon? Vous avez vu ce que c'est que Perceval, ce que ça veut dire ?»« Oh non, non, mais attends, va à confesse là, hein, va, non, non, non. » Et on invente même le péché originel. On invente qu'on arrive et qu'on n'a rien fait, on est déjà coupable. Ça montre à quel point cette culpabilité est profonde et elle est inhérente à la séparation, c'est tout à fait normal. Entre guillemets normal, c'est-à-dire que cette illusion de séparation, ce jeu dans le bac à sable, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression qu'on est victime, qu'on a l'impression que les autres sont des méchants. Et on projette à l'extérieur pour surtout ne pas voir que c'est nous-mêmes que ce qu'on voit, c'est nos croyances. Parce que comme ce qu'on voit, on a l'impression que c'est terrifiant, que c'est épouvantable, qu'on est vraiment victime, on ne veut pas le voir, tiens, ça fait trop peur. Parce que si on le voit, ce à quoi on s'identifie va disparaître. Donc c'est notre mort. Donc quand on est dans la séparation, dans cette croyance, eh bien, cette croyance, on est tout le temps menacé de mort. Et donc on essaye sans cesse de s'adapter pour essayer de survivre tant bien que mal, de surnager dans ce marasme. Donc l'adaptation, ce n'est pas, on croit souvent, et l'ego dit c'est bien, on s'est adapté, c'est bien, moi, c'est la volonté de Dieu, ben oui. Il a souffert, je souffre, elle souffre, il souffre, c'est la volonté de Dieu. On arrête ces bêtises. Dieu n'est qu'amour, n'est que joie, n'est que plénitude. Il faudrait payer des prix. Payer quoi? Pourquoi? La vie est la vie. Elle a besoin de rien. Elle est pleine. Elle est plénitude. Et donc j'arrête de m'adapter. J'arrête de m'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire je décide d'instant en instant de vivre la vérité, de vivre l'amour, de tendre la main à mes frères et sœurs, d'arrêter de les juger, d'arrêter de me juger moi-même. J'accueille des jugements inconscients, j'accueille aussi tous mes jugements inconscients, j'accueille tous les comportements. Mais je ne juge pas ce jeu de la séparation qui implique automatiquement l'attaque et la défense, qui implique automatiquement la violence, la séparation, la ségrégation. J'arrête de m'adapter. Alors après, effectivement, je m'aperçois que je commence à expérimenter des miracles, des guérisons, des choses inhabituelles. C'est pas pour rien que ce dont nous parlons ici, en parlant d'un cours en miracle, c'est pas pour rien que ce livre qui vient s'appelle un cours en miracle. Au début, ce titre paraît bizarre. Même des gens disent « Oh, c'est la cour des miracles ». Mais c'est que c'est très profond. C'est que justement, quand j'arrête de m'adapter et que je décide d'ouvrir mon cœur, de tendre la main vraiment à mes frères et sœurs et d'arrêter mes jugements, à ce moment-là, je commence à expérimenter les miracles. Et c'est la pratique de cette vision, de cette attitude nouvelle qui me montre que ça a un sens. C'est d'ailleurs ce que dit le cours en miracle au début du livre d'exercice pour les étudiants où il y a 365 leçons et à la fin de cette courte introduction d'une page et demie qui explique un petit peu ce qui va se passer et qui fait quelques propositions pour mieux vivre en disant les leçons, les 365 leçons, en disant tu es invité à tu vas peut-être voir des choses qui vont te déplaire ou qui vont te surprendre. Tu vas même avoir tendance à t'y opposer. Tu es invité à... Tu n'as pas à y croire. Tu es invité à pratiquer. Essaye de ne pas le rejeter en bloc. Pratique. Et c'est cette pratique qui va te montrer que ça a un sens. Donc cette adaptation, eh bien j'arrête. Je ne m'adapte pas à l'illusion. Je veux vivre la réalité. Et donc, l'illusion, c'est les femmes sont victimes. C'est les homosexuels sont en danger. Et maintenant, ça y est, on fait des pétitions parce qu'on va passer des lois, etc. J'arrête ça. Bien sûr, j'écoute mon cœur. Je peux être guidé à signer une pétition. Je peux être guidé à aller chez Greenpeace, à faire je ne sais pas quoi. Mais c'est une guidance. Ce que je fais n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est comment je le fais. Est-ce que je le fais dans l'amour ou dans la peur? Parce que si je le fais dans la peur ou en luttant, ça y est. Je donne une réalité à la séparation. Donc qu'est-ce que je fais? Je vis l'enfer. Comme je disais tout à l'heure, c'est ce que dit le cours en disant « Vous ne cessez pour faire le ciel d'utiliser des moyens qui font l'enfer. » C'est très, très explicite, c'est très concret. Et on a oublié qu'on est créateur. Et quand on dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions », mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le monde de l'ego croit bien faire, parce qu'il croit à la séparation. Et donc il s'adapte. Il va essayer de faire des nouveaux systèmes politiques, des nouvelles choses, de se battre contre les méchants, d'exclure, de condamner. Eh bien, c'est perdu d'avance. Bien sûr, il va y avoir de nouveaux systèmes politiques. Bien sûr, il va y avoir de nouveaux systèmes sociaux, de nouvelles façons de vivre ensemble. Mais ça vient par l'amour. Ça vient par la non-violence, par le non-jugement, par de nouveaux regards les uns sur les autres, qui sont une totale acceptation. Qui viennent par l'ouverture du cœur et non plus par des élucubrations mentales en tentant d'arranger les choses. On commence à comprendre que les choses ne vont pas bien parce que je vois qu'elles ne sont pas bien. Jésus dit à Tom Carpenter, plutôt en fait c'est sa femme qui pose une question, il lui dit par exemple, les fourmis meurent parce que tu les vois mourir. C'est fort ça. Ce que je vois, c'est ce que j'ai voulu voir. Tout le monde que je vois à l'extérieur, c'est le reflet de mes croyances. Évidemment, j'ai voulu vivre cette séparation. Eh bien, je vis la séparation, c'est tout. Et on est 7 milliards ici à avoir choisi ensemble le bac à sable, la séparation, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et c'est très bien fait parce qu'on est puissamment, on est divin, on est puissamment créateur. J'arrête de m'adapter. J'arrête de m'adapter à l'illusion. J'accueille la vérité et je laisse la vérité diriger ma vie. C'est pour ça que le cours en miracle dit « Je vais me reculer et te laisser mener, te laisser me guider. » On dit à l'esprit « Ok, guide ma vie. » Jésus, il y a 2000 ans, disait « Si je porte témoignage, pour moi-même, je fais un mensonge. De moi-même, je ne fais rien. C'est l'esprit en moi qui fait les œuvres. Et qui c'est l'esprit? C'est qui je suis. » Quand il dit « de moi-même, je ne fais rien », c'est-à-dire le petit personnage identifié à l'ego ne peut rien faire. Donc ça, c'est quand le petit personnage essaie de faire quelque chose, il essaie de s'adapter à l'illusion. Et c'est ça l'illusion. Et c'est ça justement le demi-tour à 180 degrés que nous faisons, où nous cessons de nous adapter à l'illusion. Parce que tant qu'on s'adapte à l'illusion, on crée l'illusion, puisque nous sommes créateurs. C'est aussi simple que cela. Et on n'insiste jamais assez là-dessus. Donc j'arrête de m'adapter et je laisse la vérité vivre ma vie. Je laisse l'amour me conduire à chaque instant, pas à pas. Bien sûr, ça demande de la confiance. Ça demande une confiance énorme et totale, absolue. C'est pas étonnant d'ailleurs que dans la troisième partie du cours en miracle, qui est le manuel pour les enseignants, au petit chapitre 4, qui décrit les caractéristiques des enseignants de Dieu, ce qu'il appelle les enseignants de Dieu, c'est ceux qui témoignent de la lumière, on peut dire, c'est une façon de parler, bien sûr, tout ça c'est des mots. Hein. Eh bien, la première des caractéristiques, c'est la confiance. Et de cette confiance-là, toutes les autres caractéristiques viennent. La générosité, la paix, l'état de paix, tout ça, tout ce qu'on connaît, tout ce qui nous parle au cœur. Mais ça demande de la confiance. Pourquoi? Parce qu'on a choisi une expérience de dualité, c'est tout. On a choisi de plonger sur une planète où la dualité est énorme, où l'illusion est énorme. Le libre arbitre a été donné à un point formidable. On a pu imaginer cette séparation à un degré formidable. Donc on est tous drogués ici. Alors nos enfants arrivent, ils se font droguer par les parents, et puis ensuite ils droguent leurs enfants. Vous comprenez, quand j'emploie le mot droguer, je veux dire véhiculer une illusion, de fausses croyances. Il n'y a rien de mal. C'est le jeu qu'on a choisi. Donc quelque part, nos enfants ont choisi le jeu d'ego. Parce qu'effectivement, si vous avez les enfants, ils vont aller à l'école, vous allez voir ce qu'on leur enseigne. Ils ouvrent leur télévision, regardez ce qu'on leur... Ils ouvrent les magazines, regardez ce qui est dit. C'est toujours « défendez-vous, attaquez, jugez, condamnez, à chaque fois, soyez bien, voyez le bien, le moins bien, le mieux. » C'est que de l'ego. Et qu'est-ce que fait l'ego? Il est tellement terrorisé qu'il a besoin de mettre des étiquettes partout. Il faut qu'il... Comme ça, il peut se stabiliser. Donc, il va faire des groupes. Alors, il est dans une religion, et puis on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'adeptes de la religion, il est terrifié. Il faut aller baptiser les gens. Il faut faire des adeptes, il faut faire des clubs. Et puis après ça, on se gonfle en disant, ben, on a gagné. On est grand, on est costaud. C'est une telle peur de la petitesse de l'ego. C'est ça. Est-ce que je veux ça? Est-ce que je veux m'adapter à ça? C'est-à-dire lutter encore, essayer d'arranger un peu la maison qui brûle. Ou de dire, mais non, la maison brûle parce que je la vois brûler. Mais il n'y a pas de maison qui brûle. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a que la lumière, il n'y a que le divin, il n'y a que l'amour, c'est tout. Le non-amour est inventé, ça n'existe pas. Dieu est tout ce qui est. Dieu est. Je suis, nous sommes. Nous sommes la lumière. C'est pour ça que Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Il ne disait pas, il y en a certains qui sont la lumière du monde et pas les autres. Non, non, vous êtes la lumière du monde. On est tous la lumière du monde. C'est ça la non-dualité. Alors, j'arrête de m'adapter. J'arrête de m'adapter à l'illusion. Et je choisis l'amour en toute chose.
Voilà, c'est l'heure de clore ce groupe et cet enregistrement, ce qui ne nous empêchera pas, si nous le souhaitons, de continuer à partager d'une manière informelle entre nous. Voilà, dans la joie de la prochaine rencontre, qui sera annoncée par email, je vous dis à très bientôt, chers frères et sœurs.